Radio France Internationale, il est 3h, en temps universel, 5h à Paris.
Marion Cazanov.
Et 23h à Ottawa. À la une, la victoire annoncée des libéraux au Canada. Après les législatives anticipées, les bulletins de vote continuent d'être dépouillés. Marc Carney devrait donc rester au pouvoir après une campagne marquée par les menaces du voisin américain. L'électricité est rétablie à plus de 90% en Espagne. La situation revient à la normale sur la péninsule ibérique après cette panne géante qui a provoqué le chaos des heures durant. Et puis en France, 1500 actes antisémites en 2024. Un rapport déplore la hausse de ces actes depuis la guerre à Gaza. Au Canada, les premières projections des médias donnent les libéraux gagnants des élections législatives. Ils étaient donnés favoris déjà dans les sondages face aux conservateurs. Les bulletins de vote continuent d'être dépouillés. On retrouve à Ottawa notre envoyée spéciale, Marine de la Moissonnière. Vous êtes au QG de campagne du Premier ministre et candidat libéral Marc Carney. Et la victoire semble lui être acquise, Marine.
Oui, mais ça devrait être une victoire simple pour Marc Carney, car il ne devrait pas obtenir la majorité absolue à la Chambre des communes. Vous l'avez dit, il reste encore quelques bulletins à dépouiller. Ici, l'ambiance est tout de même à la fête. Un sac siège de plus qui tombe dans l'escarcelle libérale est accueilli avec des applaudissements. Alors, cette victoire, vous l'avez dit, ce n'est pas une surprise. Marc Carney était le grand favori des sondages. Mais ce triomphe, il était tout simplement impensable. Au début de l'année, le conservateur Pierre Poilievre avait plus de 20 points d'avance sur les libéraux. Et puis, Donald Trump est entré en scène. Ses attaques contre le Canada, la hausse des droits de douane, les menaces d'annexion répétées encore ce matin, ce lundi matin, eh bien, tout cela a rebattu les cartes politiques au Canada. Le CV de Marc Carney a ensuite fait la différence. Cet ancien banquier novice en politique devrait donc s'imposer ce soir face au candidat conservateur Pierre Poilievre, trop proche du président américain sur le fond et sur la forme. Pierre Poilievre qui n'a jamais réussi à ôter cette étiquette de mini-Trump que lui ont collé ses adversaires.
Marine de la Moissonnière en direct d'Ottawa pour RFI. On continue à suivre le dépouillement de ce scrutin dans nos prochains journaux. L'électricité revient peu à peu en Espagne et au Portugal. Le courant y est rétabli presque entièrement après cette panne géante qui a paralysé la péninsule ibérique une bonne partie de la journée d'hier. Une journée de chaos avec des trains bloqués de longues heures. De nombreuses écoles et magasins ont dû fermer. Maria Carolina Garcia, habitante de la région d'Alicante au sud-est de l'Espagne, raconte cette coupure inattendue.
La panne a touché le centre d'Alicante à 12h30, heure espagnole. Nous pensions qu'il s'agissait de quelque chose de passager, mais le temps a commencé à passer. Nous avons tout de même pu prendre le bus pour San Juan d'Alicante, c'est-à-dire là où nous vivons, et il n'y avait pas de feu de circulation. Beaucoup de gens marchaient dans la rue, les magasins étaient fermés. Nous sommes entrés dans un supermarché, l'un de ceux qui se trouve près de la maison et qui était encore ouvert. Les gens se sont empressés de faire des courses. Les chariots étaient pleins. Les parents partaient chercher leurs enfants à l'école. Les données cellulaires fonctionnent, certes, et les appels aussi, mais il n'y a plus de Wi-Fi.
Une habitante de la région d'Alicante en Espagne avec Juan Gascón. Et aucune hypothèse écartée selon le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour expliquer cette panne dont l'origine, dit-il, est probablement en Espagne. 15 gigawatts ont été perdus en seulement 5 secondes dans le pays, ce qui correspondait à ce moment-là à plus de la moitié de la demande en électricité. On reviendra plus largement donc sur cette panne dans nos prochaines éditions. On sera en direct de Madrid à 6h, temps universel. La guerre en Ukraine. La Russie propose une trêve de 3 jours du 8 au 10 mai à l'occasion des célébrations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne croit pas à la tenue de cette trêve et parle d'une tentative de manipulation. La dernière annoncée par Poutine il y a quelques jours n'avait pas été respectée. Les combats s'étaient poursuivis. Le Monde assiste à un génocide en direct à Gaza. Les mots d'Amnesty International dans son rapport annuel sur les droits humains publié aujourd'hui. Israël continue de frapper quotidiennement cette enclave palestinienne, alors qu'hier soir était prévue au Caire une rencontre entre les négociateurs israéliens et le chef du renseignement égyptien. Il devait discuter d'un possible cessez-le-feu. RFI 4h05 à Rabat, au Maroc. La visite diplomatique de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils ont envoyé sur place leur ministre des Affaires étrangères pour discuter d'un possible accès à la mer qui leur serait offert donc par le Maroc. Une initiative lancée depuis plusieurs mois maintenant, Pierre Firsion.
Le Malien Abdoulaye Diop, le Nigérien Bakary Yaou Sangaré et le Burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré se sont entretenus hier à Rabat avec Mohamed VI. Une photo de la rencontre faisait hier soir le tour des réseaux sociaux. Les trois hommes ont, selon l'agence de presse marocaine, salué l'initiative lancée par Mohamed VI en réaffirmant leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer sa mise en œuvre. Ce projet d'accès à l'océan Atlantique avait été annoncé fin 2023 par le roi du Maroc. Le Sahara occidental est-il concerné par ce projet ? L'océan Atlantique s'étend longuement sur les côtes de ce territoire disputé et revendiqué par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. L'initiative risque donc d'attiser un peu plus les tensions entre Alger, Rabat et les pays de l'AES. Mais pour ces trois pays enclavés, le projet est d'importance à l'heure où ces États, gouvernés par des jeunes militaires, entretiennent des relations souvent tendues avec les pays du Golfe de Guinée. Le chef de la diplomatie nigérienne a qualifié hier l'initiative d'aubaine, mais ce projet pourrait prendre du temps à se concrétiser. Aucun calendrier n'a encore été annoncé pour sa mise en œuvre.
Pierre Firsion, ce mardi 29 avril marque la date limite pour que les citoyens pakistanais quittent l'Inde. Les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis l'attentat meurtrier au Cachemire indien la semaine dernière. Attentat imputé au Pakistan, la traque des meurtriers se poursuit avec toujours de vives tensions à la frontière, des échanges de tirs réguliers. Dans ce contexte, Grégory Genevrier, de nombreuses images détournées circulent sur les réseaux sociaux, ce qui ajoute à la confusion.
Oui, à en croire des centaines de publications mensongères diffusées sur les réseaux sociaux, l'Inde et le Pakistan seraient entrés en guerre ouverte. Des internautes affirment par exemple, photo à l'appui, qu'un poste frontière indien aurait été bombardé par l'armée pakistanaise. Sauf que c'est faux, le cliché montrant une colline ravagée par les flammes a en réalité été pris en Irlande du Nord, dans les montagnes de Mourne, le 17 mars dernier. Une autre infox virale prétend cette fois documenter la destruction d'un immeuble pakistanais par l'armée indienne. La vidéo, impressionnante, montre l'édifice s'effondrer suite à une explosion. Mais une nouvelle fois, ces images sont sorties de leur contexte. Grâce à une recherche par image inversée, on sait que cette vidéo a été filmée à Beyrouth, au Liban, lors d'un bombardement de l'armée israélienne en novembre dernier. Ce type d'image détournée se compte actuellement par dizaines et cumule des millions de vues. Une désinformation dangereuse qui radicalise des esprits déjà bien échauffés par les tensions en cours entre les deux pays voisins.
Grégory Genevrier. Plus de 1500 actes antisémites en France en 2024, 1600 en 2023. C'est le résultat d'un rapport sur l'antisémitisme transmis hier au gouvernement et qui pointe une résurgence donc de ces actes depuis les attaques du 7 octobre 2023 en Israël et la guerre à Gaza. Pour lutter plus efficacement contre cela, le rapport met l'accent sur deux volets. L'éducation et la justice, Louis Cal.
C'est chez les jeunes que les actes antisémites seraient les plus nombreux. Alors le premier remède, c'est la pédagogie. Marianne Matar-Bonucci est professeure d'histoire et pilote le groupe de travail sur l'éducation.
Concrètement, ce serait une transformation des programmes scolaires, d'inscrire justement l'histoire de l'antisémitisme dans la longue durée pour parler de sa matrice religieuse, pour parler de ses transformations successives jusqu'à ses réalités contemporaine.
Si la formation des élèves est essentielle, celle des professeurs l'est également.
Nous préconisons la mise en place d'un institut de formation adossé à la recherche sur les enjeux d'antisémitisme et de racisme.
Le deuxième groupe de travail s'est penché sur le renforcement des sanctions. L'avocate et présidente de l'organisation juive européenne Muriel Waknin-Melki souligne l'importance de condamner l'amalgame entre religion juive et soutien à la politique du gouvernement israélien.
Toutes les fois où vous allez au lieu d'injurier une personne de sale juif ou de sale juive, vous allez la traiter de sale sioniste, par exemple. Il n'y a plus lieu, en fait, de tergiverser. Elle doit être jugée de la même manière.
Concernant la lutte contre l'antisémitisme à l'université, une loi doit être présentée à l'Assemblée nationale dans les prochains jours.
Et toujours en France, les femmes toujours trop peu nombreuses à occuper des postes de pouvoir. 28% seulement selon l'ONG Oxfam qui publie aujourd'hui un rapport sur le taux de féminisation du pouvoir en France et déplore encore trop de sexisme. Cette étude s'accompagne d'une tribune signée par plusieurs femmes politiques comme la maire de Paris Anne Hidalgo ou la chef des écologistes Marine Tondelier. Elle réclame plus de parité. 5h10 à Paris à suivre sur RFI Grand Reportage.